19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Et mobilisation contre l'Ebola, la Banque mondiale a approuvé un don de 105 millions de dollars afin d'endiguer plus rapidement l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Par ailleurs, le président américain monte lui aussi au créneau. Barack Obama visite aujourd'hui les centres fédéraux pour la prévention et le contrôle des maladies à Atlanta. Il devrait y annoncer le déploiement de 3000 soldats américains en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie d'Ebola a été revu à la hausse et le virus a ce jour fait 39 morts, c'est ce qu'affirme le ministre national de la Santé. Mais selon le docteur Félix Kabangé Numbi, l'épidémie reste circonscrite dans le seul territoire de Boundé, dans la province de l'Équateur. Il ajoute par ailleurs que de nombreux malades pris en charge à temps ont été guéris. Félix Kabangé Numbi est au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
À ce jour, de manière cumulée, nous avons 66 cas suspects, 26 cas probables et 24 cas confirmés Ebola par le laboratoire. Nous avons 39 décès. Parmi ces décès, nous comptons malheureusement 8 personnels de santé. Depuis le 11 août, nous avons suivi 626 contacts. Parmi ces contacts, 342 ont été suivis et ont terminé leurs 21 jours, donc ils ont été déchargés.
Au moment où la polémique enfle en Afrique de l'Ouest sur les moyens de guérir Ebola, comment est-ce que la RDC fait pour guérir ces malades ?
Lorsque une personne est atteinte par un virus, il y a l'immunité naturelle qui est mise en branle. Et cette immunité peut arriver à contenir et à tuer le virus et à pouvoir l'éliminer. La deuxième chose, c'est que plus tôt on amène le malade au centre de traitement, plus de chances il a de guérir.
Au Nigeria, le Sénat va appeler le président Goodluck Jonathan à mener une guerre totale contre la secte islamiste, appel lancé alors que Boko Haram a progressé de manière fulgurante ces dernières semaines, s'emparant de nombreuses localités des États de Yobe, Borno et Adamawa. En mai, M. Jonathan avait lui-même promis une guerre totale contre le terrorisme, mais l'armée s'est montrée incapable de stopper l'avancée des islamistes. En Égypte, un accident de la route a fait 9 morts et 30 blessés. La collision entre un bus de touristes et un véhicule est survenue après près de Beni Souef, dans le centre du pays. C'est ce qu'indiquent des sources médicales et sécuritaires citées par l'AFP.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Parlement ukrainien a adopté une loi accordant plus d'autonomie aux régions séparatistes dans l'est du pays ainsi que l'amnistie pour la plupart des rebelles. Nathalie Barge.
Le nouveau projet de loi proposé par le président Petro Porochenko vise à mettre fin au conflit de 5 mois dans l'est de l'Ukraine. Les dirigeants séparatistes pro-russes ont minimisé l'importance de la décision. Alexander Zakharchenko, premier ministre de la République populaire de Donetsk, autoproclamé, a déclaré à l'agence de presse officielle russe RIA Novosti que la loi doit encore être signée par le président Porochenko et publiée avant d'être effective. Ensuite, nous allons la traduire en russe, l'étudier et donner notre avis, a-t-il dit. Le premier adjoint de Zakharchenko, Andrei Purgin, est allé plus loin en disant que cette loi pourrait servir seulement comme base pour un futur dialogue, non pas comme un acte législatif, et d'ajouter que les lois qui régissent la République populaire de Donetsk sont créées par son propre parlement, pas celui de Kiev. Ce mardi, les législateurs ukrainiens ont également ratifié un accord pour élargir les liens économiques et politiques avec l'Union européenne.
Merci Nathalie. Attentat suicide à Kaboul. En Afghanistan, une voiture piégée a heurté des véhicules de l'OTAN, tuant au moins 3 soldats de la force internationale. L'OTAN n'a pas révélé leur nationalité. 5 soldats et 13 civils seraient également blessés dans cette explosion qui s'est produite sur une route reliant l'ambassade américaine à l'aéroport de Kaboul. Les talibans ont immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Et puis, le chef d'état-major interim des États-Unis, le général Martin Dempsey, n'exclut pas le déploiement de troupes terrestres en Irak pour combattre les militants de l'État islamique. Intervenant lors d'audience au Congrès, le général Dempsey a déclaré que s'il venait, a estimé que les conseillers militaires américains devraient accompagner les troupes irakiennes au front contre les insurgés. Il le recommanderait au président Barack Obama. Les audiences du Congrès portent une requête pour armer et entraîner les rebelles syriens combattant le président Bachar al-Assad et l'État islamique.
Washington, Nouvelle Amérique, Amigro Didier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, selon les Nations Unies, quelques 805 millions de personnes dans le monde, soit un être humain sur neuf, souffrent encore de la faim.
Je pense que dans le rapport, c'est clair que ces objectifs de l'OMD, ça reste à portée de main.
James Taft, du bureau régional de la FAO pour l'Afrique à Accra, évoquera le fait que certains pays gèrent mieux le problème de la production alimentaire que d'autres. Salon international de l'agroalimentaire de Lomé.
Puisque que les uns et les autres font par rapport aux différents projets, le programme mis en œuvre par le gouvernement, encore qu'il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée.
Le promoteur du salon, Tito Atikpo, évoquera les moyens de sortir du cercle vicieux de l'agriculture de subsistance. Et aux États-Unis, le débat sur l'augmentation du salaire minimum fait rage. Il faudra lever 1 milliard de dollars pour faire en sorte que la fièvre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest ne se propage pas à plus de quelques dizaines de milliers de personnes, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé en parlant d'une épidémie sans précédent. Michel Joseph.
Selon le dernier bilan communiqué mardi par l'OMS, la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait au moins 2461 morts sur près de 5000 personnes contaminées depuis que l'épidémie s'est déclarée en mars. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés n'a pas d'équivalent dans l'époque moderne, a dit Bruce Aylward, directeur général adjoint de l'OMS, lors d'une conférence de presse à Genève. Nous ne savons pas jusqu'où grimperont ces chiffres, a ajouté M. Aylward, qui est cité par l'agence Reuters. Ici à Washington, le Fonds monétaire international s'inquiète des déséquilibres fiscaux pour les trois pays en première ligne de l'épidémie à Ebola, qui sont déjà de l'ordre de 100 à 130 millions de dollars pour chacun de ces pays, selon des chiffres publiés par l'institution de Bretton Woods. Le FMI étudie comment couvrir les besoins financiers entraînés par l'épidémie, notamment les déficits financiers considérables dans le budget de la balance extérieure de ces pays qui risquent de déclencher une inflation plus significative. La croissance de la Sierra Leone et du Libéria pourrait chuter de 3,5% et celle de la Guinée de 1,5%, a fait savoir M. Aylward. Les activités économiques pâtissent de la fermeture de la fonction publique, des perturbations dans les vols aériens, ainsi que du bouclage des frontières terrestres, mais également du fait que nombre de petits agriculteurs ont abandonné leur culture.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Selon un nouveau rapport des Nations Unies, quelques 805 millions de personnes dans le monde, soit un être humain sur neuf, souffrent encore de la faim. Ce rapport de la FAO intitulé « L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde » constate que le nombre de personnes affamées dans le monde a diminué de plus de 100 millions au cours des 10 dernières années. Donc, la tendance générale est au recul de la faim dans les pays en développement, ce qui signifie que l'un des objectifs du millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la proportion de personnes sous-alimentées d'ici à 2015 est à portée de main, à condition que les efforts appropriés et immédiats soient intensifiés, indique le rapport. À ce jour, 63 pays en développement ont atteint l'objectif en question et 6 autres sont en voie de l'atteindre d'ici à 2015. James Taft, du bureau régional de la FAO pour l'Afrique à Accra, évoque le fait que certains pays gèrent mieux le problème de la faim que d'autres. On l'écoute.
rapport a essayé de regarder les expériences de sept pays, c'est-à-dire les expériences en termes d'adresser les questions de la faim. Je pense que ce qui sort de ces expériences, il y avait un nombre de facteurs, et je pense que de manière générale, c'est l'environnement favorable ou propice aux initiatives contre la faim. Et je pense que dans ce contexte général, on voit des expériences telles que ce qui s'est passé au Brésil, en Bolivie, qui avaient vraiment un engagement politique soutenu au plus haut niveau. Donc avec ça, ça a permis le démarrage des initiatives en faveur des interventions contre la faim. Il y avait aussi l'établissement des mécanismes institutionnels et de gouvernance qui favorisent la coopération, la coordination interministérielle. Et encore, les expériences au Brésil, en Indonésie, ont été soulignées dans le rapport. Troisièmement, il y avait la question de participation, une large participation de la population, la société civile, le secteur privé, le membre du Parlement dans le processus. Et donc, dans les analyses qui ont été faites, ça met en exergue l'importance d'impliquer la population dans la formulation et la mise en œuvre de ces politiques. Et puis, il y avait également la question de la cohérence des politiques. Et encore, en regardant les expériences dans ces différents pays, la cohérence entre ce qu'on fait dans le secteur agricole relatif au secteur de santé, de commerce, etc., a été des expériences qui ont été analysées dans le cadre du rapport.
Toujours selon M. Teft du bureau régional de la FAO pour l'Afrique à Accra, il est clair que l'objectif du millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la proportion des personnes sous-alimentées d'ici à 2015 reste à porter.
Je pense que dans le rapport, c'est clair que ces objectifs de l'OMD, ça reste à porter demain. Qu'on a vu, et pour revenir à ces sept pays, que quand il existe un engagement politique soutenu, quand on met en place des interventions, par exemple liées à la protection sociale qui adressent les contraintes spécifiques des populations affamées, quand il y a des investissements bien ciblés, que tout est possible. Donc je pense que en présentant les tendances générales dans le monde, je pense que le rapport présente des pistes, si vous voulez, de ce qui est possible quand les pays, de manière stratégique et systématique, adressent ces différentes contraintes. Et c'est, je pense, que la conclusion générale, que les objectifs de l'OMD restent à portée de main.
Quels sont les principaux facteurs qui peuvent aider à réduire la faim en Afrique? Jim Teft évoque certains facteurs, notamment politiques.
Je pense que, comme nous voyons dans beaucoup de pays et ce qui existe encore, on voit dans les expériences des sept pays, c'est d'abord de traduire ces déclarations et l'engagement politique en actions concrètes. Donc par ça, on pourrait envisager plusieurs mesures et on voit ça surtout sur le continent africain. Il y a beaucoup d'activités dans ce sens. Donc c'est la question d'un environnement favorable ou propice économique, social, culturellement, politique. Il y a des questions également d'investissement à la fois à l'agriculture et au système agroalimentaire, mais également des investissements dans diverses mesures de protection sociale. Et donc, nécessairement, il y a une question d'utilisation du budget qui favorise ces investissements. Je pense que, comme on a vu aussi dans les différents sept pays, c'est l'importance d'établir et de rendre fonctionnels les mécanismes efficaces de responsabilisation ou de redevabilité qui permettent les pays à suivre les interventions, au moins de permettre les populations et les parties prenantes à se rendre compte. Et je pense qu'il y a également lié à ça, il y a la capacité des acteurs. Je viens de mentionner aussi la question de participation des acteurs, organisation des producteurs, société civile. Il y a déjà beaucoup d'interventions et d'efforts des gouvernements dans ce sens, mais ça doit être renforcé.
Les propos de M. Teft du bureau régional de la FAO pour l'Afrique à Accra étaient recueillis par Muriel Sarr de la FAO. Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Vous êtes en direct de Washington. Menace sur la filière porcine en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont lancé une campagne d'abattage dans la ville de San Pedro, où s'est déclarée une épizootie de peste porcine. La maladie aurait son origine dans des restes de repas recueillis à bord d'un navire lituanien et utilisés pour l'alimentation des porcs. Timothée Donongmaï a recueilli les explications du docteur Mamadou Ouattara du ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques.
Aujourd'hui, nous enregistrons à peu près 2800 porcs qui sont morts. Nous-mêmes, depuis une semaine, nous avons abattu plus de 1020 animaux. Les animaux en élevage sont pratiquement abattus sur un rayon de 10 km pour maîtriser le foyer. Nous continuons parce qu'il y a encore un certain nombre d'animaux qui sont en divagation. Et ceux-là, les mesures de stratégie, notamment l'utilisation des filets pour les mobiliser, est en cours depuis lundi. Et nous pensons que normalement, dans une bonne semaine, nous devrons pouvoir terminer avec l'abattage sanitaire de sorte à confiner le virus au niveau de San Pedro.
Quel est l'impact en termes de manque à gagner pour les éleveurs porcins de Côte d'Ivoire?
C'est très important. Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu déjà cette maladie. C'est pour ça que nous n'avons pas eu trop de problèmes à convaincre nos autorités. En 1996, nous avons connu la maladie qui a occasionné plus de 100 000 porcs morts. Et l'État de Côte d'Ivoire était obligé de débloquer plein d'argent pour pouvoir indemniser. À l'état actuel, nous étions en train de reconstruire notre filière. Et dans le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture qui s'étend de 2014 à 2020, dont les objectifs de production est de faire en sorte qu'en matière de taux d'importation en viande et en lait, en viande et à bas, qui est actuellement de 26,7%, ce taux passe à 60%, avec un accent qui est mis sur la production porcine. Vous voyez donc le poids de cette filière-là et la production agricole. Et cela doit nous amener aux environs de 2020, à inverser le taux d'importation de 26,7 à 60%. Donc vous comprenez que pour nous, nous ne pouvons pas vivre avec cette maladie. Et c'est pour ça que le gouvernement a donné des instructions fermes pour que la maladie soit éliminée rapidement dans cette zone.
Qu'est-ce que le gouvernement compte faire en faveur des éleveurs affectés?
Le gouvernement a décidé d'indemniser les éleveurs dont les animaux seront abattus. Et nous prenons des précautions pour identifier tous les éleveurs dont les animaux sont abattus. Et j'ai même demandé, nous avons demandé un géoréférencement de tous les élevages pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible, pour que les animaux qui sont abattus soient indemnisés. Plus l'État compte les aider à repeupler leur troupeau.
Une idée de l'enveloppe qui sera nécessaire à cette opération?
Pour le moment, il y a une enveloppe de à peu près 117 millions pour les mesures de départ. Mais la suite, nous sommes en train d'évaluer cela pour informer le gouvernement.
Le docteur Mamadou Ouattara, du ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques, il était joint à Abidjan. Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous. Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. Face à l'insécurité alimentaire et la famine qui menace régulièrement l'Afrique de l'Ouest, des producteurs locaux se sont retrouvés au Salon international de l'agroalimentaire du 11 au 14 septembre à Lomé. But de la rencontre, sortir du cercle vicieux de l'agriculture de subsistance. Lola Akomatsri a joint le promoteur du salon, Tito Atikpo.
Cette année, c'est l'année internationale de l'agriculture familiale. Et je peux dire que c'est cette agriculture familiale que nous pouvons encore appeler l'agriculture de subsistance que nous avons toujours utilisée en Afrique. On peut véritablement atteindre la sécurité alimentaire telle qu'aujourd'hui les différentes politiques, les programmes alimentaires définis par les gouvernements africains à travers le programme national de la sécurité alimentaire, puisque que les uns et les autres font par rapport aux différents projets et aux programmes mis en œuvre par le gouvernement, pensons qu'il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée à l'agriculture Mais si on s'y met sérieusement, on y accorde la volonté, on soutient les projets des jeunes, nous pensons que la sécurité alimentaire peut être atteinte.
Et pour aller à l'échelle continentale en Afrique, quand on sait qu'il y a un paradoxe par rapport au potentiel agricole de l'Afrique, mais en même temps, de l'autre côté, on a des pénuries alimentaires, voire des famines. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux, selon vous?
Je crois que chaque individu doit s'atteler à ce que, par rapport aux initiatives qui sont menées, chacun joue sa partition. Quand il y a des problèmes sur le plan de la sécurité alimentaire, cela va sans dire que l'économie est impactée de manière négative, parce que les grandes valises qui peuvent bien vouloir travailler dans les champs, si ces personnes ont faim, ne peut pas avoir véritablement une économie qui permette peut-être à chaque individu de se nourrir.
Lola Akomatsri a interrogé le promoteur du Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, M. Tito Atikpo. Washington, Camille Gros-Didier, vous suivez le magazine de l'économie. La plus grande centrale solaire d'Afrique centrale et de l'Est vient d'entrer en production au Rwanda avec des panneaux photovoltaïques déployés sur 21 hectares. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Le Rwanda rejoint ainsi l'Afrique du Sud qui, jusqu'au mois dernier, était le seul pays subsaharien à utiliser une importante quantité d'énergie solaire. Érigée dans le village d'Agahozo Shalom, dans l'est rwandais, la centrale solaire a une production maximum de 8,5 MW, soit près de 7% de la capacité du réseau rwandais. Le gouvernement a signé un contrat pour acheter cette énergie sur 25 ans. Étant donné que la production d'une centrale solaire fluctue, les autorités rwandaises vont se limiter à 10% d'énergie solaire sur le réseau électrique national, ce qui leur permettra d'économiser les coûts du gazole utilisé dans leur centrale thermique. Le Rwanda n'étant pas particulièrement ensoleillé, d'où vient-il qu'il ait porté son choix sur l'énergie photovoltaïque? Dan Klink est le propriétaire d'Afritech, la compagnie ayant construit la centrale solaire d'Agahozo Shalom. Le développement d'un projet hydroélectrique prend, je dirais, 2 ans. Avec le solaire, nous sommes arrivés sur le site en février et en juillet, la centrale a commencé à produire de l'électricité. Donc, nous parlons d'un délai de 6 mois contre 2 ans. Les villageois dont les champs occupaient le site se disent heureux d'avoir reçu des compensations et impatients d'avoir accès à l'électricité produite. Mais beaucoup d'autres Rwandais des zones rurales, il faudra patienter avant d'être connecté au réseau électrique. Pour cela, les panneaux solaires pourraient être la solution. Mobisol, une compagnie allemande, offre au Rwanda un système pouvant faire marcher plusieurs lampes, un chargeur de téléphone, une torche et une radio pour l'équivalent de $10 par mois sur 3 ans. 80% des ménages rwandais peuvent se l'offrir, estime David Gassirabo, responsable marketing du responsable marketing de Mobisol. Honnêtement, presque tous peuvent l'acquérir. Si vous choisissez d'avoir de la lumière, alors cela est possible. Les panneaux solaires ont tout de même quelques contraintes, explique de son côté Klaus Meyer, gérant de Mobisol au Rwanda. Je pense que pour les parcs solaires ou mini-réseaux, si les panneaux solaires s'échauffent, votre production décline. Donc, le Rwanda est probablement un bon endroit pour avoir un mini-réseau électrique ou un parc solaire. Composé de 28 panneaux photovoltaïques, le complexe rwandais d'Agahozo Shalom a coûté près de $24 millions.
Vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Aux États-Unis, des travailleurs de la restauration rapide réclament une hausse du salaire minimum à $15 de l'heure afin de pouvoir sortir de la pauvreté. Ils manifestent depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de consensus pour l'instant sur la pertinence de relever le salaire minimum. Pour les uns, toute augmentation réduit la compétitivité des entreprises et nuit à l'ensemble de l'économie. Pour les autres, toute croissance du salaire minimum entraîne une hausse de la qualité de la vie et des dépenses des ménages, un avantage pour l'ensemble de l'économie. Le Congrès américain n'ayant pas encore agi, le débat se poursuit au niveau des États et des villes. Le point avec Nathalie Barge, qui reprend ici un reportage de Mike O'Sullivan.
We're worth more.
On vaut plus que ça.
les récentes manifestations des travailleurs de la restauration rapide dans les grandes villes américaines, comme Atlanta, ont rassemblé beaucoup de monde. Elles font partie d'un effort continu visant à augmenter le salaire minimum. Lors de la fête du travail aux États-Unis, le président Barack Obama a ajouté sa voix aux revendications. All across the country right now, there's a national movement going on. Partout dans le pays en ce moment, il y a un mouvement national de travailleurs de la restauration rapide qui s'organise pour le relèvement des salaires afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille avec fierté et dignité. On ne peut nier une vérité simple, l'Amérique mérite une augmentation. Aux États-Unis, le salaire minimum national est de 7,25 $ de l'heure. Mais il est plus élevé dans certaines villes et dans des États comme la Californie, où les travailleurs gagnent au moins 9 $ de l'heure. La ville de Seattle a le minimum le plus élevé, 15 $ de l'heure, que les manifestants veulent d'ailleurs voir adopté comme taux national. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, veut porter le SMIG à 13,25 $ de l'heure dans les 3 ans. Il a également parlé aux travailleurs lors de leur fête.
It is a crime for people to live in this rich nation and receive starvation wages.
C'est un crime pour les gens de vivre dans ce pays riche et de recevoir un salaire de misère. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps d'augmenter le salaire à Los Angeles. La responsable de l'administration des petites entreprises américaines, Maria Contreras-Sweet, rappelle que le Congrès bloque la hausse au niveau fédéral. Le président a annoncé un salaire minimum de 10,10 $, mais nous comprenons que dans le pays, il y a des normes et des situations économiques différentes. Et parce que le Congrès n'agit pas, de nombreux maires et États prennent leurs propres décisions. La plupart des chefs d'entreprise n'adhèrent pas à l'idée d'augmentation du salaire de leurs employés. Freeman Ho, qui possède un atelier de réparation automobile près de Los Angeles, a son point de vue sur la question. Si les frais de main-d'œuvre sont plus élevés, nous devrons augmenter les prix pour les clients. Il reconnaît cependant que le salaire minimum actuel ne suffit pas pour mener une vie décente aux États-Unis et qu'il faudrait augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Beaucoup d'Américains travaillent de longues heures pour un faible salaire, souligne Rusty Hicks de la Fédération du travail du comté de Los Angeles. Si vous travaillez à temps plein, vous travaillez 40 heures par semaine. Donc, vous devriez pouvoir subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille, et même contribuer à votre communauté. Les grandes firmes américaines et les républicains au Congrès sont contre l'augmentation du salaire minimum. Quant aux partisans de la hausse, ils rétorquent que celle-ci stimulerait l'économie, en plus d'apporter l'aide nécessaire aux travailleurs les plus vulnérables des États-Unis.
Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. À peine rentrée à Abidjan, la Banque africaine de développement se remet en ordre de marche. Elle accueille début novembre la 9e conférence économique africaine dans la capitale économique ivoirienne, où elle compte également fêter son 50e anniversaire. La reprise des activités de la BAD suscite beaucoup d'espoir. On écoute l'économiste Maurice Sae.
J'estime que les avantages sont de deux types, hein. Premièrement, du point de vue de l'activité économique, la BAD, c'est un nombre important de travailleurs. Et donc, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est des loyers, c'est la consommation qui va être boostée ainsi. Et donc, c'est un apport appréciable. D'un autre point de vue, du point de vue de la sécurité, de la reconnaissance de l'état de fait actuel, c'est un bon point pour le gouvernement. Parce qu'il était dit que l'insécurité régnait à Abidjan. Si la BAD revient, cela signifie que tout va mieux, ou du moins tout a l'air d'aller mieux. Donc, c'est deux éléments que je prends en considération.
Est-ce que, à votre avis, ça va doper la consommation ou créer des emplois aussi?
Alors, créer des emplois, oui, c'est certainement, parce que des emplois, pas des emplois qualifiés, peut-être quelques-uns, mais au niveau des écoles, d'abord, il va y avoir la fréquentation des écoles par les enfants des travailleurs de la base, et puis ceux-ci vont probablement, très certainement, embaucher des femmes de ménage, des hommes pour faire leurs jardins, etc. Donc, ça va certainement créer des emplois, quelques emplois. Mais disons que la base, de façon directe, ne fera pas de miracle, hein, parce que du point de vue du financement de l'économie, que la là-bas, soit à Tunis ou à Casa ou à Abidjan, cela ne change pas la nature des problèmes qui se posent. Si là-bas doit financer un projet de développement de la Côte d'Ivoire, ça se fait là-bas d'un accord conclu entre le gouvernement et la direction de là-bas. Donc, quel que soit le lieu où réside là-bas, cela ne change pas.
Au plan des relations interbanques, pensez-vous qu'il y aura une redynamisation de la macroéconomie?
On peut espérer un tel élément, parce que de toute façon, en matière bancaire, il est évoqué souvent un phénomène qui n'est pas un phénomène physique, qui est la confiance. Donc le fait que la base revienne à Abidjan va accroître le niveau de confiance que les acteurs de l'économie bancaire ont les uns dans les autres et très certainement aider au fonctionnement de ce secteur.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.